Campus. Crash Campus Interview.
90.0 FM.
Radio Campus, Radio de l'Intelligentsia du Cameroun.
Escuti.
Voici la minute du droit. La minute du droit, c'est un programme d'éducation aux droits humains. La minute du droit, c'est un programme d'information et de sensibilisation aux droits et obligations des justiciables lors des différentes phases de la procédure pénale au Cameroun. C'est un programme radiophonique interactif réalisé avec l'appui financier du gouvernement du Canada par l'entremise de Affaires Globales Canada et l'appui technique de l'ONG internationale suisse International Bridges to Justice. La Minute du Droit, c'est un programme animé par Yvon Mabofé, consultant international en droit de l'homme, avec la participation des professionnels du droit à l'instar de Kabra Libi, journaliste, juriste internationaliste et expert en droit de l'homme. Sa Majesté Joseph Raoul Makondo, juriste et expert en droit de l'homme. Le programme bénéficie également de la participation des magistrats, avocats, enseignants d'université et autres acteurs de la société civile. La Minute du Droit, c'est tous les mardis et jeudis de 9h à 9h30 sur Radio Campus UY2. La Minute du Droit, c'est le droit à votre portée, un programme au service du droit et du développement.
Mesdames et messieurs, bonjour, chers auditeurs de Radio Campus. À la suite du chambellan, notre collègue, nous voulons vraiment ce matin apprécier ensemble, nous apprécions ensemble ce matin, la journée de ce matin. Ça n'a pas été facile. Nous sommes venus malgré la forte pluie de ce matin. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer avec notre spécial programme intitulé « La Minute du Droit ». La Minute du Droit est un programme spécial, mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices de Radio Campus, parce que nous ne cesserons de le dire, c'est une opportunité pour vous, j'allais dire, c'est même une plateforme où vous avez la possibilité de porter à l'attention de nos experts en studio les différents abus et violations des droits de l'homme dont vous faites l'objet, et ce, bien évidemment, par le biais de l'information et de la sensibilisation que constitue ce programme. Ce matin, nous avons un autre expert, nous avons un professionnel du droit, nous avons quelqu'un qui est constamment auprès de toi, nous avons quelqu'un qui est au fait, bien évidemment, des violations et abus des droits humains, parce qu'il pratique, il défend, il protège et même il fait la promotion aussi des droits, et c'est en sa qualité bien évidemment d'avocat au barreau du Cameroun que nous l'avons convié ici ce matin. Il s'agit de Maître Nuka Philippe. Bonjour Maître.
Bonjour. Bonjour à tous vos auditeurs. Je souhaite un bonjour spécial malgré que la matinée est humide. Mais je crois que la pluie c'est la bénédiction. Bonjour encore.
Merci beaucoup Maître. Mmh. Et puis merci d'avoir bravé, d'avoir, n'est-ce pas, surmonté ce défi du temps pour être là ce matin avec nous. Et à côté de Maître, nous aurons aussi nous allons enregistrer la participation des experts maison qui sont souvent là, mais qui ne sont pas encore là. Certainement, cela est dû à cette forte pluie matinale, dont à savoir Sa Majesté Joseph Raoul Makondor et Cabral Libi. Mais avant bien évidemment d'introduire ou alors de commencer notre débat ou notre discussion, ou encore avant de donner des orientations stratégiques aux auditeurs, auditrices qui nous écoutent ce matin, nous allons souffler le temps d'une pause musicale et revenir juste après. Thank you. Voilà, nous sommes de retour en studio. Une fois de plus, bonjour Maître Nouka.
Oui, merci.
Et nous sommes très honorés de votre présence ici ce matin. Et ça nous encourage, nous, au niveau de toutes les personnes qui sont tout autour, n'est-ce pas, ou qui participent à la conception de ce programme spécial. Mais j'aimerais, Maître Nouka, entrer directement dans le vif du sujet et vous poser, partager avec vous, n'est-ce pas, cette question d'un auditeur qui disait « Si un suspect est bastonné lors d'une garde à vue, est-ce qu'il a le droit de se défendre en invoquant la légitime défense ?»
Non, non, non.
Dans une unité de police, il y a un suspect qui arrive et puis malheureusement, il est bastonné et après celui-ci, dans une réaction fougueuse comme ça, là, dit bah, « Écoute, mon ami, tu viens de taper sur moi, je ne peux pas admettre ça, allez, se mettre à bagarrer. »
Non, non, il n'en a pas le droit. Dois-je le rappeler d'abord, la légitime défense a été rigoureusement organisée par la loi pénale. Et lorsque vous allez consulter les dispositions de l'article 84 de ce code pénal, vous verrez que pour qu'il y ait légitime défense, il faut d'abord que celui qui s'estime victime ait vécu, ait subi une attaque illégitime, illégale, et que la menace soit réellement actuelle. Et qu'en réaction, généralement c'est action-réaction, il faut que sa réaction soit concomitante à l'attaque qu'il vient de subir. Et je précise encore, c'est une attaque illégitime, illégale. Or, dans le cas d'une interpellation d'un suspect dans une unité de gendarmerie de police, il faut dire que pour que l'OPJ, l'officier de police judiciaire, ordonne une mesure de garde à vue, c'est qu'il estime qu'il y a des éléments, n'est-ce pas, concordants, n'est-ce pas, qu'on peut mettre à l'actif de la personne qui est interpellée. Et dont on a peur qu'en la laissant en liberté, ces indices pourront être, effacés. Donc, dans le cas de la garde à vue déjà, il n'y a pas d'illégalité à proprement parler. Bon, ce suspect ne peut pas invoquer qu'absolument l'État lui trouve un avocat. C'est son droit d'avoir un avocat, mais dans ce cadre-là, c'est à lui de faire tout pour avoir son avocat, avec l'assistante peut-être de sa famille. Parce qu'il faut qu'on le dise, tous les traités que nous avons ratifiés, le dispositif, les instruments internationaux que nous avons, depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, depuis même notre Constitution, toute personne qui est retenue quelque part doit toujours être traitée avec humanité. Bon, mais seulement c'est gênant parce qu'en matière, lorsqu'on est encore au niveau des unités d'enquête, on ne peut pas demander que l'État trouve absolument un avocat à quelqu'un. L'État ne le fera pas. Celui qui demande n'est pas en droit de demander. Et celui-là ne peut pas réagir contre la mesure qui lui est faite sous le fallacieux prétexte qu'il est en légitime défense. Parce que sa garde à vue en elle-même répond déjà à une exigence de la loi. Il peut tout au plus se plaindre si peut-être cette garde à vue devient abusive. Vous savez que la loi a encadré les délais de garde à vue. Et d'après l'article 119 du Code de procédure pénale, ces délais sont connus. On dit que ces délais sont de 48 heures renouvelables une fois. Et exceptionnellement deux fois sur autorisation du procureur de la République. Ce n'est que dans le cadre où ces délais de garde à vue ont excédé pour encore se plaindre, revendiquer par le biais éventuellement des gens qui sont dehors, des gens de sa famille, de ses proches. Voilà ce que je pouvais dire d'entrée de jeu.
Alors, vous avez dit exceptionnellement deux fois sur autorisation du procureur de la République.
Oui.
Mais est-ce qu'il y a une notification? Est-ce que c'est écrit? Comment est-ce que le suspect saura qu'il y a eu un renouvellement de sa garde à vue, s'il y a des papiers qui l'attestent?
Oui, il peut le savoir, étant donné que la mesure de garde à vue doit lui être notifiée. Lorsqu'il est interpellé et que l'enquêteur l'entend, et que l'enquêteur estime qu'il y a des éléments qui militent à ce qu'il soit retenu dans l'unité de gendarmerie ou de police, s'il décide de cette mesure de garde à vue, elle doit lui être notifiée. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à computer les délais.
Merci, Maître. Je rappelle
Avant, sans vous couper, j'aimerais quand même préciser qu'il doit être toujours traité avec humanité et que cette mesure doit être ordonnée par un officier de police judiciaire, pas par un agent de police judiciaire. Peut-être si vous me donnez l'occasion, je vais vous dire peut-être plus tard
qui a qualité d'officier de police judiciaire.
Merci maître. Je rappelle déjà aux auditeurs, auditrices de Radio Campus que vous avez la possibilité d'interagir avec notre expert ici en studio en composant le 653-81-19-18, 653-81-19-18. Ou alors le 242-00-65-38, 242-00-65-38. Ou alors nous envoyer des SMS au 655-44-60-92, 655-44-60-92. Alors maître, une autre question hein, qui nous parvient à l'instant. Si un suspect ou un inculpé n'a pas d'avocat, que peut-il faire? Ou alors que peut faire l'État pour respecter les dispositions internationales qui le reconnaissent le droit à un avocat?
Ok, merci pour la question de cet auditeur. Ce que je vais dire d'entrée de jeu, c'est que jusqu'ici, nous parlons de suspect et nous parlons d'inculpé. Je crois que c'est ça.
Oui.
Nous avons parlé de suspect
et... On a suspect, on a inculpé.
Ok. Lorsqu'on parle de suspect, il faut que les auditeurs le sachent. C'est lorsque la personne poursuivie se retrouve encore au niveau de l'enquête. La personne peut être dans une unité de police, dans une unité de gendarmerie. Là, on parle de suspect. Mais lorsque la personne qui est poursuivie pour une infraction qualifiée de crime, j'aimerais dire aux auditeurs que la classification tripartite des infractions nous est donnée à l'article 21 du code pénal, où on classe les infractions de contravention, délit et crime, ce sont les plus graves. S'il est poursuivi donc pour crime, la loi impose qu'il y ait une ouverture de l'information judiciaire. Et lorsque le suspect est déjà à la phase de l'information judiciaire, son nom change, il s'appelle désormais inculpé. Bon, est-ce que ce suspect ou cet inculpé a le droit de demander que l'État lui trouve un avocat s'il n'a pas de moyens? Nous allons répondre de façon lapidaire, non. C'est un peu gênant. Parce que ça va pourtant, on va se rendre compte qu'à un moment donné, il peut y avoir violation des droits de l'homme. Mais j'aimerais vous dire en fait que généralement, c'est lorsqu'on est à la phase de jugement. On prend un suspect qui est passé à l'enquête à l'inculpation, à l'information judiciaire où il est devenu inculpé. Lorsqu'il se retrouve devant le juge de jugement, devant le tribunal de grande instance, par exemple, statuant en matière criminelle, lorsqu'il lui est reproché une infraction criminelle qui encourt l'emprisonnement à vie ou la peine de mort, en tout cas une peine privative de liberté extrêmement grave, ce n'est que dans ces cas-là que l'État est tenu de lui trouver un avocat. Et dans ce cas-là, on parle de commission d'office. Parce que les honoraires, parce que vous savez, la loi qui organise la profession d'avocat, en son article 1, la loi de 90, précise que tout ce que l'avocat fait comme travail de représentation, d'assistance, il le fait moyennant rémunération qu'on appelle honoraire. Mais dans ce cas-là, très souvent, comme ce que la personne en cours est extrêmement grave, si elle n'a pas de moyens, l'État est tenu de lui trouver un avocat. Et là, on parle de commission d'office. Mais on peut quand même le regretter. Avec le nouveau code de procédure pénale, il y a eu une amélioration, certes, mais il y a aussi eu un petit recul. Parce qu'avant, en matière criminelle, si vous n'aviez pas un avocat, l'État était tenu de vous trouver un avocat. Mais maintenant, ce n'est plus pour tous les crimes. Il faut que ce soit une peine, une infraction qui est en cours, soit l'emprisonnement à vie, soit la peine de mort, soit une peine vraiment extrêmement grave.
Mais alors, pour les peines, pour les simples infractions comme ça, là,
oui, les simples infractions, comme les délits, les contraventions, oui. Non, l'État n'est pas tenu de vous trouver un avocat.
Il n'est pas tenu de vous trouver un avocat.
Pas tenu.
Si vous ne pouvez pas vous en procurer un, par exemple à la phase, est-ce qu'on ne court pas un risque, n'est-ce pas, à multiplication des violations des droits, des droits humains, que ce soit à la phase policière de la procédure pénale ou encore que ce soit à l'instruction ou encore au jugement? Est-ce qu'il n'y a pas de crainte?
Évidemment.
Si quelqu'un n'a pas d'assistance, il n'a pas d'assistance judiciaire?
Évidemment, évidemment. Il y a beaucoup de cas d'irrégularité qui peuvent arriver. C'est vrai que de plus en plus, j'ai rencontré dans certaines unités où des enquêteurs étaient un peu au fait déjà de l'évolution. Mais il y a encore beaucoup qui font le pied de grue. Beaucoup. Et très souvent, lorsqu'une personne est interpellée dans une unité de police, de brigade, la violation de ses lois commence, ses droits commencent même à l'entrée. Parce qu'il y a des gens qui sont jetés dans des cellules sans outre mesure. Alors que la loi demande que ces personnes soient d'abord auditionnées lorsqu'elles arrivent. Que ces personnes d'ailleurs même soient notifiées de leurs droits. Et qu'on leur notifie même leur droit d'avoir un avocat et leur droit de garder le silence. Mais vous allez vous rendre compte très souvent, lorsque nous sommes en flagrant délit par exemple, nous constatons quand nous voyons les PV qui sont produits en flagrant délit, que très souvent, l'enquêteur n'a pas pris la peine de notifier les droits de la personne suspectée. Alors que ça doit se faire. Et l'article 116 du Code de procédure pénale confirme le précise en disant que le non-respect de ces formalités doit entraîner la nullité de ces PV. Or, ces PV-là sont des preuves, des moyens de preuve qu'on produit devant le juge de jugement. Et l'article de préciser, si on n'a pas respecté ces mesures, ces PV doivent être invalidés. Mais je puis vous assurer, et vos auditeurs, que très souvent, les violations commencent à l'entrée même, lorsqu'il arrive.
Alors, par rapport à la nullité de ces PV-là, ça se passe comment? Est-ce que c'est au niveau, lorsque nous sommes dit au niveau du jugement, que ça devient nul? Ou alors, on peut encore, il y a encore des possibilités de rendre nul ces PV pendant tout au long de la procédure?
Non, c'est difficile de les annuler tout le long de la procédure. Par contre, généralement, le moment de prédilection pour le faire, c'est pendant la phase de jugement. Vous imaginez, si c'est un suspect qui devient prévenu, qui est poursuivi et qui n'a pas de conseil, hein, qui est celui qui va produire ses PV d'enquête préliminaire? C'est le représentant du ministère public. Alors, s'il n'y a pas la vigilance du juge, n'est-ce pas, qui est appelé à juger de cette affaire, l'irrégularité qui a émaillé la procédure ne pourra pas être sue. C'est la raison pour laquelle la présence d'un avocat est absolument nécessaire. Parce que c'est en ce moment-là que l'avocat va vérifier si ce PV qui est un moyen de preuve qui va jouer contre le prévenu a été fait de façon régulière.
Merci maître. Je rappelle aussi aux auditeurs une fois de plus que vous avez la possibilité d'interagir avec maître, de poser vos questions au 653 81 19 18, 653 81 19 18 ou au 242 00 65 38, 242 00 65 38 ou alors nous envoyer des SMS au 655 44 60 92, 655 44 60 82 12. Alors maître, une autre question, lors de l'audition d'un suspect, supposons que ce dernier soit incarcéré dans une unité de police, est-ce que le fait qu'il soit incarcéré est une condition ou alors est une preuve de sa culpabilité? Est-ce qu'on peut déjà dire que ce monsieur vraiment est un coupable du moment où on l'a incarcéré dans le cadre d'une garde à vue?
Non. Ce que nous pouvons dire ici, c'est que les instruments internationaux que nous avons ratifiés, le préambule de la constitution camerounaise et beaucoup d'autres textes que nous appliquons disent de façon globale que tant qu'une personne n'a pas été jugée, déclarée coupable par un tribunal dans lequel toutes les garanties nécessaires à sa défense lui ont été réservées, garanties, accordées, il bénéficie de la présomption d'innocence. Une mesure de garde à vue n'est pas déjà un symptôme de la culpabilité de la personne poursuivie. Je vais vous dire quelque chose. Lorsqu'on parle de délits flagrants, il arrive même des moments où la mesure de garde à vue vise même à protéger la personne qui est poursuivie. Vous imaginez?
Ah bon?
Oui. Il peut y avoir des cas de malentendus. Ou, par exemple, je vais prendre un cas assez banal comme ça, où quelqu'un vient, un monsieur est venu rendre l'âme devant à côté d'une maison. Et les premiers indices, l'enquêteur qui doit monter une enquête, va d'abord commencer par suspecter la personne qui est à la maison, qui est directement à côté du lieu où on a trouvé la personne décédée.
Tout à fait.
C'est une question de logique. Bon, il peut arriver donc que la personne qui est décédée appartenait à un gang. Et le gang vient pour se venger en disant que c'est la personne qui est à la maison contiguë juste à côté de celui qui est décédé qui en est l'auteur. Naturellement, l'enquêteur, qui est prudent et vigilant, va ordonner d'abord une mesure de garde à vue qui apparemment elle est banale, mais qui vise d'abord au départ à protéger la personne poursuivie jusqu'à ce que l'enquête révèle s'il y a des éléments effectivement pour qu'elle soit renvoyée devant un tribunal. Ou alors, s'il n'y a pas d'éléments suffisants au terme de la mesure de garde à vue, même au terme du renouvellement s'il y a eu, la personne sera purement et simplement libérée.
Merci maître pour cette autre précision. Alors nous avons un autre SMS qui nous parvient à l'instant mais qui n'a pas de signature. Et la personne dit « Bonjour, j'aimerais bien savoir si après un homicide volontaire, le coupable trouvé en flagrant délit est condamné à vie. »
après...
Bonjour, j'aimerais bien savoir si après un homicide volontaire, le coupable trouvé en flagrant délit est condamné à vie.
Homicide volontaire?
Oui.
Ok, lorsqu'il dit homicide volontaire, je crois que nous sommes là plein dans les dispositions des articles 275 qui parlent du meurtre, parce que le 275 parle de l'assassinat. Ok, lorsque la personne qui a commis cet homicide l'a fait volontairement, connaissance de cause, naturellement, la peine encourue, c'est l'emprisonnement à vie.
Okay. Merci, merci maître. Maître, nous allons poursuivre, maître Nouka, nous allons poursuivre bien évidemment avec les questions d'assistance judiciaire. Alors, c'est quoi une assistance judiciaire et comment est-ce que c'est juridiquement organisé? Nous allons voir ensemble qui en sont les bénéficiaires et nous allons aussi apprécier ensemble hein, l'assistance judiciaire. Est-ce que ce n'est pas une mesure, est-ce que ce n'est pas un... un droit qui à la fin est juridiquement facile, mais techniquement pour l'avoir, ça devient un peu difficile.
Ok, merci pour cette question.
Mais d'abord, c'est quoi l'assistance judiciaire?
Merci. Avant de dire ce que c'est que l'assistance judiciaire, qu'il me soit permis de dire que l'assistance judiciaire est à peu près ce qu'est la commission d'office. La commission d'office vous permet, n'est-ce pas, d'avoir un avocat dont les frais seront payés finalement par l'État. L'assistance judiciaire, elle, intervient en matière civile. Et permettez-moi d'entrer de jeu de vous dire que cette assistance judiciaire est organisée au Cameroun par la loi numéro 2009-004 du 14 avril 2009 portant organisation de l'assistance judiciaire.
Tout à fait.
Et avant de vous dire exactement ce que c'est que l'assistance judiciaire, je voudrais d'abord vous donner le contenu de l'article 24 du Code de procédure civile et commerciale. D'après cet article 24, toute action que vous introduisez devant une juridiction en matière civile doit toujours être sous-tendue par le paiement d'une consignation. Ça veut dire concrètement, lorsque vous revendiquez le paiement d'une somme, ça peut être, vous avez peut-être assigné un paiement. Peut-être que vous avez assigné un dommage intérêt. Lorsque vous demandez un paiement, vous devez toujours justifier d'un paiement, n'est-ce pas, de la consignation qui est fixée par la juridiction que vous devez payer au greffe. Mais la loi précise que ce paiement, on peut passer outre si la partie qui demande au requérant justifie d'avoir obtenu l'assistance judiciaire. L'assistance judiciaire va lui permettre quoi? D'obtenir soit le non-paiement total ou partiel des frais de justice, des frais d'enregistrement à la décision. L'assistance judiciaire va lui permettre de pouvoir exécuter à terme la décision qu'il aura obtenue. Je prends de façon triviale. Un homme est retraité et il a eu une procédure qui était pendant depuis des années. Il est retraité, il ne justifie plus de ressources normales. Alors, il assigne, n'est-ce pas, son adversaire pour le paiement d'un certain montant. Prenons de façon triviale peut-être le montant d'un million. Alors il lui faut justifier du paiement, n'est-ce pas, d'une consignation qui peut faire dans les 50, 60, peut-être 100 000. Alors il n'a pas la capacité de payer pour justifier l'action qu'il est en train de mener. Alors il va introduire une demande d'assistance judiciaire. Donc je reprécise pour vos auditeurs. L'assistance judiciaire lui permet à la personne requérante d'obtenir une dispense du paiement de la consignation. Et cette consignation, les frais de justice, les frais pour exécuter la décision seront soutenus cette fois-là, soit totalement, soit partiellement par l'État. C'est ça l'assistance judiciaire.
Ok maître, avant de revenir sur les autres éléments relatifs à l'assistance judiciaire, nous avons une autre SMS qui a fort heureusement une signature. Celle de Akono de Soa. Il dit « Bonjour en studio, est-ce qu'une personne qui a perdu un procès dans un tribunal peut porter plainte pour les mêmes faits ?»
Pas porter plainte. Merci déjà pour la question. Je voudrais dire à la personne que dans l'organisation judiciaire au Cameroun, d'ailleurs c'est à l'image de toutes les législations dans le monde, il y a ce qu'on a appelé le double degré de juridiction. C'est-à-dire que lorsque j'ai saisi un tribunal d'instance, qui peut être un TPI, qui peut être un TGI, Lorsque je n'ai pas été satisfait de la décision qui a été rendue, peu importe le domaine, la matière, j'ai le droit de saisir une juridiction qui lui est supérieure à l'effet d'obtenir un second examen de l'affaire. Je crois que c'est dans ce qu'il est en train de
c'est
dire.
C'est ce qu'il voulait dire.
Voilà. Cette fois-là, l'affaire qu'il va porter, il va la porter auprès d'une juridiction qui est supérieure. Mais je tiens à préciser, si la décision qui a d'abord été rendue au départ contre lui était par défaut, la loi lui permet de former opposition auprès de la même juridiction. Mais si la décision lui a été rendue...
On peut expliquer par défaut.
Oui, par défaut. C'est-à-dire qu'on a rendu la décision alors que lui n'a pas eu le temps de venir faire valoir ses moyens de défense. La procédure lui a été peut-être dissimulée. Il n'a pas été au courant et il vient être informé quand la décision est déjà rendue. Alors, la loi lui permet de former opposition contre cette juridiction. Il y a un formalisme pour le faire, mais généralement on le fait par déclaration orale ou écrite auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Mais si la décision qui a été rendue contradictoirement, c'est-à-dire que cette personne a assisté au débat, a fait valoir ses moyens de preuve, alors il lui reste en ce moment-là de relever appel. Et là, elle va saisir, n'est-ce pas, la cour d'appel correspondante. Mais ça commence toujours par une déclaration d'appel qui sera déposée auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision. J'insiste encore là-dessus, il y a toujours un formalisme parce qu'il y a des délais qui ne sont pas les mêmes en matière pénale, en matière civile, en matière sociale, etc. Il y a un autre formalisme.
Merci beaucoup, maître. Je rappelle également aux auditeurs, à la suite de notre ami de Soa, à Kono, vous avez la possibilité de nous envoyer vos SMS au 655 44 60 92, 655 44 60 92. Alors, maître, vous avez dit, vous avez indiqué préalablement que l'assistance judiciaire organisée au Cameroun par la loi numéro 2009-004 du 14 avril 2009 qui porte organisation de l'assistance judiciaire au Cameroun. Moi, j'aimerais savoir, maître, comment on fait pour bénéficier de cette assistance judiciaire? Quelles sont à l'intérieur les conditions d'obtention de l'assistance judiciaire? Et est-ce que ce ne sont pas des conditions qui sont taillées sur mesure? Parce que j'ai vu quelque part des personnes indigentes. Est-ce que c'est pas taillé sur mesure?
Oui.
Est-ce qu'il n'y a pas des personnes également dont on pense que... Comment on apprécie l'indigence d'une personne?
Ok. Merci pour cette question. Effectivement, n'allez pas croire, vos auditeurs et nous n'allons pas croire que l'assistance judiciaire, le droit à l'assistance judiciaire automatique. N'allons pas que lorsqu'on introduit une demande, on l'obtient. Absolument. Non. Si on le dit comme ça, ce serait une présentation assez angélique de la chose. Lorsque vous voulez introduire une action où vous voulez bénéficier de l'assistance judiciaire, vous devez produire un certain nombre de pièces. Et ces pièces seront examinées par une commission spéciale. Et au terme de cet examen, vous pouvez avoir droit, vous pouvez bénéficier de cet assistant judiciaire ou pas. Et lorsque vous bénéficiez de l'assistant judiciaire, ce bénéfice peut être une dispense partielle. Donc, n'allons pas croire que c'est toujours automatique. Mais les personnes qui sont les premières visées, ce sont les personnes indigentes. Il s'agit des personnes qui vont produire un certificat d'indigence. C'est-à-dire, lorsque vous saisissez la commission, le président d'abord de la juridiction compétente, au moyen d'une requête aux fins d'assistance judiciaire, vous devez l'accompagner avec des pièces. Parmi ces pièces, il y a le certificat d'indigence que vous avez, que la personne va obtenir auprès de la commune, n'est-ce pas, la communauté urbaine, la commune, généralement la commune d'arrondissement compétente, qui va accompagner ces dossiers avec même un certain nombre de pièces comme le certificat de non-imposition. Un certain nombre de pièces qui, à première vue, justifient du caractère indigent de la personne.
Est-ce que ces pièces-là ne sont pas aussi compliquées? Est-ce que ça ne...
Oui.
Finalement, on ne peut pas bénéficier de l'assistance judiciaire parce que, en réalité, la production de ces pièces devient plus compliquée qu'on ne le pensait.
Effectivement. Ces pièces, avoir ces pièces relève souvent également d'un parcours du combattant. Avoir ces pièces n'est pas toujours facile. Vous faites des pieds de grue, vous montez, vous descendez pour produire ces pièces. Et lorsque vous avez produit ces pièces, la commission maintenant qui va statuer sur ces pièces a également un fonctionnement qui, parce qu'il faut qu'on ne l'oublie pas, c'est l'agent du trésor public. Et nous sommes dans un État, dans un État africain, l'État est asphyxié par les charges qu'il a. Donc ce ne sera pas toujours de gaieté de cœur et automatiquement que la commission va accorder ces demandes-là. Très souvent, l'on demande, mais pour vous dire la vérité, le ratio de ceux qui font les demandes et ceux qui obtiennent, il y a une grande différence.
Mais entre-temps, maître, pendant la demande,
oui,
les affaires continuent.
Oui.
Et il n'a pas d'avocat.
Non, entre-temps, nous sommes... Lorsqu'on parle d'assistant judiciaire, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes déjà en matière civile.
Oui, tout à fait.
Où le ministère de l'avocat n'est pas absolument nécessaire.
Nécessaire, oui.
Enfin, il est nécessaire, mais il n'est pas indispensable. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de justiciables font sans avocat. Parce que l'avocat chez nous, dans notre juridiction, c'est d'abord le lieu d'ailleurs de déplorer. Nous parlons de droit de l'homme, le droit en avocat. Je me dis que c'est même là où le combat doit se commencer. Que l'avocat chez nous retrouve son monopole. Parce que l'avocat n'a pas le monopole chez nous dans certains domaines. En matière civile, on permet au justiciable de se présenter lui-même, de saisir la juridiction, de faire valoir ses moyens de défense.
Alors maître, nous avons une dernière question. Nous avons une dernière question parce que nous sommes arrivés au terme du temps qui nous est imparti dans le cadre de cette émission. Nous avons une dernière question qui dit « Salut à vous, merci pour cette émission. S'il vous plaît, dites-moi ce que signifie l'expression « Nul n'est censé ignorer la loi ». Fanny de Nsam. »
Ok, merci à toi Fanny pour ta question. Elle est importante. Lorsqu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, il ne faut pas croire qu'il s'agit de l'ignorance à première vue. Il s'agit simplement d'une technique qui permet à l'État de restaurer l'autorité de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi vise le fait qu'il ne faudra pas que tout le monde invoque l'ignorance de la loi pour se dérober aux exigences de la loi. Lorsqu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi, c'est qu'il faut que force revienne à la loi. Et dans une logique positiviste, il faut que la loi puisse sévir avec toute sa rigueur. Il ne faut pas que chaque fois, les justiciables puissent invoquer à chaque moment leur ignorance de la loi pour justifier les violations de celle-ci. Et d'ailleurs, je dois le dire, la loi pénale le précise, l'ignorance de la loi et le mobile ne peuvent pas influer sur la responsabilité pénale. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas invoquer votre ignorance de la loi pour croire que vous pouvez vous défiler, pour croire que vous pouvez avoir un fait justificatif. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est simplement pour rappeler aux uns et aux autres que force doit rester à la loi ne doit jamais perdre de son autorité. Vous devez tout faire pour être au fait de la loi et vous ne pouvez pas invoquer votre ignorance de la loi pour vous défiler, pour vous dérober à son application.
Donc, ça dit qu'on ne peut pas se dédouaner de sa responsabilité pénale en invoquant tout simplement le fait qu'on ne savait pas.
Non, c'est impossible. Pour vous dédouaner de votre responsabilité pénale, vous devez produire, vous devez pouvoir convaincre qu'il y avait des faits justificatifs. C'est-à-dire la légitime défense, l'exécution de la loi, l'obéissance à l'autorité légale et peut-être, encore, l'état de nécessité. En dehors de ces cas-là, vous ne pouvez pas invoquer votre ignorance pour fuir à l'application de la loi.
Merci beaucoup, Maître Nuka Philippe. Je rappelle aux auditeurs de Radio Campus que nous sommes arrivés au terme du temps qui nous est imparti dans le cadre de ce spécial programme intitulé « La Minute du Droit ». Et vous avez la possibilité de suivre en rediffusé, bien évidemment, cette émission ce jeudi à 20h00 ou alors demain vendredi à 14h. D'ici là, nous espérons que la journée sera ensoleillée et nous vous souhaitons bien de choses. Certainement à la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu et bye bye.
Bye bye.